Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être là. Voici les sites que nous allons vous recommander pour cette fin de semaine. Alors, ils sont tous originaux, bien sûr, ils sont pas très connus, bien sûr, et ils méritent donc votre curiosité, bien sûr. Vous découvrirez au cœur de l'Ardèche un aven, A-V-E-N, démesuré. Alors un aven, c'est un puits, si vous voulez, un puits naturel. Celui que nous avons choisi est classé parmi les plus grands sites de France, s'il vous plaît. Ensuite, direction un village du Calvados pour y voir l'un des derniers fabricants de kaléidoscope. Oui, ça existe. Et puis après cela, un site de plein air, comme chaque samedi, où vous circulerez cette fois-ci sur des marais du Pas-de-Calais à bord de drôles d'embarcations. Et tout de suite, un site insolite. Avec Gavin Clémenté Ruiz, dénicheur officiel du guide du Routard, agréé par l'Europe, bien sûr, direction la Loire-Atlantique, où vous allez trouver, au même endroit, de magnifiques engins qui ont tous permis, à une époque, de transporter des milliers de voyageurs. Alors pourquoi sont-ils là, ces engins ? Bonjour Monsieur Gavin.
Bonjour William, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui je vous emmène à Saint-Michel-Chef-Chef. J'adore dire ce nom. Saint-Michel-Chef-Chef.
Mais là, vous bégayez ou c'est comme Baden-Baden ?
Non, c'est comme Baden-Baden, exactement. C'est sur la côte de Jade, c'est en Bretagne, et cette côte de Jade tient son nom, la couleur de la mer, donc ça vous dit un petit peu à quel point c'est beau. C'est là qu'on fabrique aussi les fameuses galettes au beurre Saint-Michel, vous savez, celles qu'on trempe dans le café. Là, qui
c'est tombe. Saint-Michel tout court. Hein,
Saint-Michel tout court.
C'est pas Saint-Michel-Chef-Chef.
Non, c'est pas Saint-Michel-Chef-Chef. Chef.
On est où exactement,
on est
à peu près
10 km au nord de Pornic. Et là, on est dans un camping.
Donc là, vous nous proposez de visiter un camping.
Oui. Oui, William, tout simplement. Je vous propose de vous visiter.
Mais peut-être pas tout le camping.
Pas tout le camping, une partie du camping. Et je vous propose même de dormir dans le camping. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il est vraiment original. C'est pour ça qu'on l'a retenu. Sur place, on trouve des engins complètement fous qui sont installés là. Pourquoi ? Il y a un bus, il y a un wagon-lit, il y a un avion. Pourquoi Guillaume Staub, le patron du camping, a choisi chaque année d'en rajouter ? On va le découvrir un petit peu plus tard.
Ah bon, qu'est-ce qu'il fait pour ça ? Là, je vois des photos, il y a une carlingue, il y a un bout de train, il y a une voiture de train.
Alors, j'adore ce monsieur, Guillaume Staub. Il est fou de transport, de moyens de transport, et il ne supporte pas le gaspillage, William. Moralité, il recycle ses engins dont on vient de parler. Vous allez pouvoir aussi peut-être dormir dans un hélicoptère ou prendre le thé ou l'apéro dans une télécabine. Et là, il est en train de remettre sur pied, j'ai envie de dire, une rame de métro de la ligne 6 parisienne.
Alors quand on entend une chose pareille, on a parfois des images en tête. On se dit, oh là là, c'est comme un cimetière de vieilles voitures, vous voyez. Ben, c'est pas ça du tout. Hein.
Non.
Parce que finalement, c'est une manière de donner une seconde vie à tous ces appareils en faisant un camping.
Exactement. Alors, on peut dormir dans un wagon-lit ou dans le bus retenu. Et c'est un endroit qui vraiment mérite de figurer dans ces lieux insolites qu'on présente chaque semaine.
Alors, nous avons justement en ligne Guillaume Staub, créateur du camping du Haut-Village à Saint-Michel. Chef, en Loire-Atlantique. Bonjour Guillaume, comment ça va ?
Ah, parfait.
Bon, alors, il faudrait expliquer à nos auditeurs que ce camping, il ne ressemble à aucun autre. Depuis quand êtes-vous ouvert d'ailleurs ?
Alors, ça fait une vingtaine d'années que j'ai créé, en partant de rien, un petit camping à la ferme. J'ai créé un vrai camping pendant 10 ans, et puis depuis 10 ans maintenant, je crée des logements insolites.
À l'époque, vous avez commencé avec quel genre de matériel ?
On a essayé des roulottes comme tout le monde, et puis finalement, en fait, quand on pense insolite, ça doit surprendre, mais des roulottes, ça surprend plus. Bon, ça a marché, mais sans plus.
Ouais.
Et du coup, on a trouvé le premier avion, et là, on s'est dit, devant le succès, waouh, il faut creuser l'affaire, quoi.
Mais ça vous est venu comme ça, tout d'un coup, vous avez vu une carcasse, vous avez dit, je vais l'acheter. À l'époque, ça coûtait pas cher ou quand même?
C'était un avion d'aluminium, donc je l'ai acheté au prix d'aluminium, il y en avait pour 13 000 euros. Comme on était les premiers, je savais pas si ça allait marcher. Quand on est précurseur, on sait jamais.
Ouais.
Et puis du coup, je me suis dit, bon, si ça marche pas, au pire, j'en ferai mon bureau, c'est pas grave. Ou alors, en dernier recours, je pourrais toujours le revendre à un casseur au prix de l'aluminium. Donc, on a fait un essai. Et puis là, devant le succès, on s'est dit, ouais, il faut développer l'affaire. Quoi.
Mais alors, chaque année, vous enrichissez, Gavin, tu viens de me le dire, vos installations avec de nouvelles pièces. Mais alors, il vous faut de la place quand même.
Oui, bah, il faut de la place. Mais nous, dans un camping, on a 3 hectares et demi, donc on a de la place, hein, il n'y a pas de souci. Hein.
Ah bon?
J'avais même pensé mettre des avions sur les toits des bâtiments. Puis ma compagne, elle me dit, mais si le bâtiment, si l'avion, il est crashé sur le bâtiment, il faudrait le mettre à l'horizontale. Ça va pas le faire.
Eh ben, elle a raison, la compagne. Elle est pas... Et ouais, elle a raison.
Là, des fois, elle me remet un peu les pieds sur terre. Elle a raison. Ouais.
Non, mais je me dis que peut-être il y a certains engins dont vous vous dites, celui-là, on l'a assez vu. Je vais l'enlever, je vais en mettre un nouveau. Par exemple, là, le nouveau, c'est un métro parisien. Donc, est-ce que vous faites ça ou non? Vous gardez tout le temps?
Non, je garde tout et j'en rajoute. Non. Je vais pas me séparer de mes jouets quand même, c'est pas possible ça.
Mais alors, vous leur donnez un coup de pinceau de temps en temps? J'ai vu, ils sont magnifiques.
Oui. Hein. Ah oui, non, on bosse dur, hein, mais c'est rigolo. Là, au moins, s'il n'y a pas de routine, tous les jours c'est différent. On tombe sur des surprises, des bonnes, des mauvaises. Bon, enfin, voilà, on se débrouille tous les jours, on improvise, quoi, c'est génial.
Alors, d'où vous vient cette passion pour les moyens de transport? Ça a toujours existé chez vous?
Non, mais en fait, c'est on aménage, un moyen de transport, c'est une boîte, c'est un volume, on aménage un volume. Mmh. Alors, classiquement, on mettait en place des mobilos, mais les mobilos, c'est pareil, c'est un volume, c'est une boîte, c'est en plastique.
Mais ça n'a pas beaucoup de charme, un mobilo.
Voilà, c'est ça, là, c'est du vrai, il y a des anciens, il y a toutes leurs soeurs, ils ont travaillé dedans, et moi, ça m'énerve, c'est le patrimoine français, on ne va pas mettre tout en case, donc là, au moins, on sauvegarde quelques pièces intéressantes. Et puis, c'est rigolo.
Vous avez des pièces dont vous êtes particulièrement fier et dont vous êtes peut-être le seul à les collectionner.
Je pense que la rame de métro, la voiture de tête, on est les seuls, ça c'est sûr. On a un autre tramway nantais, c'est pareil, les tramways c'est très rare. Il y en a aux Pays-Bas, il y a un fou furieux comme moi qu'on a deux ou trois, mais sinon il n'y en a pas.
Ah ouais, vous êtes une amicale de fou furieux.
ouais, je pense, mais nous on se comprend, moi c'est ça qui est bien. Bon, c'est juste ma compagne qui a du mal ou mon assistante qui a du mal des fois à suivre, mais c'est pas grave, nous, je me comprends. Tous les plans sont dans ma tête, donc c'est un peu particulier pour mon équipe aussi, mais bon, on y arrive.
Est-ce que tout ça coûte relativement cher? C'est toujours au prix de la matière ou du matériel?
Voilà, c'est au prix de la matière, suivant les cours, hein, c'est pas forcément très très cher. On a plus cher en transport en fait qu'en achat en fait de la pièce, donc c'est le transport le problème en fait. Hein. Il faut des camions spécialisés pour transporter un métro.
Évidemment. Moi, quand je vois la rame de la SNCF, là, c'est énorme.
Ah bah oui, ça fait 50 tonnes, ça fait 25 mètres de long, mais la longueur c'est pas très grave, c'est surtout la hauteur, ils ont pas trop aimé la hauteur de la voiture à étage, là qu'on l'a transformée en pensée à couchage, ils ont pas aimé la hauteur là.
Parmi le matériel roulant, Guillaume, est-ce que ça serait amusant de prendre un poids lourd, un camion? Non, ça vous faites pas ça?
Si, non, ils avaient pensé, mais c'est pas fini, parce qu'en fait ma vie est pas finie, donc j'ai d'autres projets. Tout jeune, peut-être pas trop quand même, mais bon, bref. non, j'avais pensé à un grand semi-remorque en cirque.
Oui, bien.
Avec le cirque dessus, comme les enfants, ils adorent ça. Et dedans, j'aurais bien voulu faire la chambre parent dans la cage au lion.
Oui,
avec les gros barreaux.
Oui, et puis on aurait...
Il est fou.
Oui, il est fou. On aurait jeté des morceaux de viande pour donner à manger aux parents.
Non, mais dans ma tête, je le vois bien, le concept.
Ah oui, je vois, il y a du monde dans votre tête, hein.
Oui.
Quel est le matériel dont vous avez entendu parler, quelque part en France ou dans le monde, dont vous rêvez et vous ne l'avez pas encore?
Alors, il y a un truc, vraiment, quand je l'aurai, je me dirai, dans ma vie, j'aurais au moins fait quelque chose de bien. Je cherche une soucoupe volante. Alors, mes parents m'ont toujours dit que ça n'existait pas, mais moi, j'ai vérifié sur un moteur de recherche et j'ai vu qu'il y en avait. Mais elles volent pas quand même, elles volent pas, elles sont statiques, mais il y en a 70 dans le monde là, il y en a 3 en France, j'en ai vu en Allemagne, et donc ça c'est un truc régulièrement je regarde où ça en est, si on en trouve des nouvelles, et je suis l'affaire, et je pense que je vais en récupérer une dans les 5 prochaines années, pour vraiment, en même temps je lance un appel à tous les auditeurs, si quelqu'un en a une dans son jardin, il faut m'appeler. Hein.
Oui, j'ai des copains, un type qui sont des jupitériens, ils viennent de la planète Jupiter. Et donc, ils en ont probablement dans le garage. Il n'y a pas de problème.
Vous avez des bons copains. C'est bien, William. C'est bien, ça.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, pour terminer, pourquoi ce village magnifique s'appelle Saint-Michel, chef, deux fois?
Non, mais là, c'était le lieu rêvé, parce qu'en fait, rien que le nom de la commune, il est déjà insolite. Non, mais en fait, je peux pas trop vous expliquer, c'est très compliqué, c'est un peu cato, ça vient du chevessier, donc voilà, ça de l'explication du runeur.
On va une autre fois, alors.
Voilà.
Mais ça existe, et c'est le vrai nom, quoi, c'est pas bidon.
Ah oui, Saint-Michel, chef, oui.
Ça, on a l'impression qu'on est dans un film de militaires, de soldats. Oui, chef, c'est très curieux.
Ouais, c'est ça, la 7e compagnie, quoi.
Oui, la 7e compagnie, voilà, avec Pierre Mondy et toute la bande. Ok. Bon, merci beaucoup, Guillaume Staub.
C'est moi, merci, William.
De cette visite, et puis à bientôt. Bon après-midi, ça marche.
Merci beaucoup, au revoir.
Il est formidable.
Il est génial. Hein. Je l'adore.
Ouais, Guillaume. Parce qu'en plus, oui, il dit je l'adore. Mais parce que le jeune homme qui est à côté de moi, M. Gavis Clémenterus, non seulement il fait le guide du routard et le magazine qui va avec, mais il va sur place. Et
ouais.
Mais donc quand il dit je le connais, c'est parce qu'il a été
découvrir
les lieux.
Quelques
bien
années.
Sûr.
Je le suis ouais. depuis quelques années.
Non, mais il est incroyable, lui. Hein.
Il est génial.
Hein, une fusée peut-être un jour. J'ai oublié de lui dire ça.
Et ben, il a une réplique de la fusée Ariane 4, au tiers ou au quart, je crois. Donc, au tiers.
Et donc, on va.
On ne peut pas dormir dedans. Par contre, c'est juste, là, c'est juste ornemental.
Mais donc, tout ça a été installé avec des lits, etc.
Exactement, on peut dormir. Il faut compter 89€ pour 2 à 3 personnes dans l'avion. Ça, j'adore. On va dormir dans le cockpit. Et c'est 550€ si on veut louer tout le wagon-train entre 10 et 16 personnes.
Il est immense. Hein.
Ouais, ouais, on peut coucher jusqu'à 16 personnes pour 550€.
C'est bien.
C'est pas mal. Ça, va, ça reste correct.
Mal, ça.
Et puis, il y a une partie aussi dans le camping qui est tout à fait classique, où on peut planter sa tente, venir avec le camping-car.
Oui, parce qu'à l'origine, c'était ça.
C'est un camping.
C'est
toujours un camping. C'est ça qui est bien. Il y a la partie classique et il y a la partie un peu plus insolite. Et donc, il ne faut vraiment pas se priver quand on passe à Saint-Michel, chef dans ce superbe camping du Haut-Village.
Alors, il faut rappeler, c'est où le camping de...
Le camping du Haut-Village, à Saint-Michel, chef ouais. en Loire-Atlantique.
Bon, d'accord. Et si on veut rapporter des produits locaux
il faut vraiment aller visiter la boutique des galettes Saint-Michel. C'est obligatoire. Elles ont été créées en 1905 par un enfant du pays, c'était Joseph Grelier, il s'appelait. Et la biscuiterie existe toujours, elle fonctionne encore. Mm-hmm. Vous avez la boutique sur place pour acheter toute la panoplie, toute la gamme. Il y a les galettes Saint-Michel, il y a les palais Roux d'Or. Est-ce que vous vous souvenez des palais
Roux d'Or?
J'adore ça. On sent déjà que ça croustille sous la dent avec le mm-hmm. beurre, tout ça. Mm-hmm. Il y a un petit salon de thé aussi pour déguster sur place. Bref, vous allez passer un bon séjour à Saint-Michel, chef.
Alors sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez, ou sinon le meilleur, europe1.fr.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Alors justement, dans Samedi en France, on vous invite chaque semaine à découvrir certaines richesses de notre patrimoine. Je voudrais vous remercier d'ailleurs de votre fidélité et des richesses qui méritent votre visite. Gavins Clémenterus, mon explorateur de grottes, oui, fait ça aussi pour l'occasion, se propose de vous faire découvrir aujourd'hui l'Avène d'Ornéac. C'est joli comme nom, hein, l'Avène d'Ornéac. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Avène? Bonne occasion d'aller au tableau, Gavins. Et où sommes-nous en plus et qu'est-ce qu'on y voit?
Alors, mon cher William, on va partir dans les tréfonds de la Terre pour cette partie de l'émission. Un Avène, alors c'est un puits naturel, vous l'avez dit, formé alors, par la dissolution des roches calcaires, là j'ai bien appris ma leçon, ou alors par l'effondrement de la voûte.
Ah oui, c'est-à-dire que la Terre tout en haut ça s'est effondrée.
Boum,
bon,
c'est tombé.
Enfin, il y a très longtemps.
Il y a très longtemps, je vous rassure. Et on va aller tout au fond. On est à 10 km de Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche. Ça s'appelle donc l'Avène d'Ornéac. C'est l'un des plus importants avènes d'Europe, de par sa taille. Mmh. On y trouve notamment des stalactites, et des stalagmites aussi, il y en a un qui est gigantesque, un stalagmite gigantesque de 24 mètres de haut et 15 mètres de diamètre.
Vous rappelez aux plus jeunes d'entre ceux qui nous écoutent
Vous savez, il y a le moyen mnémotechnique, stalagmite, il y a le M de monter, stalactite, il y a le T de tomber. Donc stalagmite ça monte, stalactite ça
et ben voilà,
pas mal.
Je vous avais dit que c'était bien de faire mieux. On vous doit combien là?
On verra ça à la fin. Ça vous donne une petite idée quand je vous dis 24 mètres de haut, 15 mètres de diamètre, ça vous donne une petite idée de la proportion de la grotte dans laquelle on va s'engouffrer à pied.
Comment ça, à pied?
Bah oui, on va descendre. 720 marches.
Et quand on remonte
Là, je vous rassure, il y a un ascenseur. Il y en a même plusieurs. Il y a des ascenseurs pour remonter. N'oubliez pas aussi la petite laine, parce qu'il fait quand même 12 degrés toute l'année. 12 degrés en ce moment, ça va.
Alors,
mais
on se retrouve donc sous terre. Alors là, j'ai une photo magnifique. C'est à combien sous terre, vous avez dit?
120 mètres sous terre. Ah. Et ouais, vous pourrez voir qu'une partie des galeries aussi. Ça fait 20 hectares de galeries. Mmh. Mais ça suffit vraiment pour en prendre plein les yeux. C'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est un spectacle naturel,
mais
plein de magie.
On se balade quand même.
Exactement. On suit le parcours des grottes. Il y a un petit parcours qui est tracé, mis en lumière.
C'est pour ça que vous dites spectacle.
C'est exactement ça. C'est naturel parce que ça a été créé naturellement. Et en même temps, ça a été mis en scène par l'équipe de l'Avène d'Ornéac.
Ah, d'accord, bah, c'est parti pour la visite. Et nous allons prendre au téléphone Colline Chantre-Gadini, qui est responsable marketing du site, qui fait donc partie de l'équipe dont vous parlez.
Exactement.
Bonjour Colline.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'un site comme le vôtre a été classé, s'il vous plaît, dans la catégorie Grand Site de France? C'était en quelle année d'ailleurs? Et est-ce qu'il y a des critères pour être sélectionné?
Alors, c'était en 2004, la première labellisation qu'on a eue. On était parmi vraiment les premiers sites qui ont été labellisés grands sites de France.
Ah.
Et en fait, on est labellisé pour notre gestion responsable et respectueuse de ce site, qui est quand même exceptionnel.
Oui, ça veut dire quoi, responsable, respectueux ? C'est-à-dire, vous passez l'aspirateur, vous faites attention à ne rien casser, à ne rien abîmer ?
Pour le côté ne rien casser, de rien abîmer, oui, ça c'est sûr. L'aspirateur dans la grotte, non, pas du tout, mais on va vraiment essayer de tout faire pour protéger le site et protéger l'environnement dans lequel il se trouve, en fait.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter l'histoire de la découverte de cette grotte ?
Bah alors, tout commence le 19 août 1935, donc ça date un petit peu.
Oui.
Il s'agit de 5 spéléologues, en fait, sous la conduite de Robert de Joly. Pendant la visite, on va beaucoup parler de Robert de Joly.
Mm-hmm.
Donc, ils vont descendre dans la grotte pour la toute première fois. Et c'est quand même un rappel de près de 50 mètres qu'ils vont le faire. Ils vont le faire à l'aide d'échelles de cordes.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, les habitants du coin appelaient cette grotte la veine du Bertras.
Mmh.
Donc on ne parlait pas du tout d'Avendornia, qui est le nom a ensuite été changé en référence à la commune où on se trouve.
Ah oui, d'accord, oui, je comprends.
C'est ça. Donc ça a quand même été une exploration de 10 heures, donc assez long. Et à ce moment-là, ils ont pu découvrir les 3 grandes salles que nous, on va vous montrer pendant la visite.
Mmh.
Et ensuite, tout le reste des réseaux a été exploré quand même un peu plus tard, en 65.
Alors, dans la visite, je disais tout à l'heure, bon, il y a un spectacle, et il y a des salles, on passe de salle en salle ?
Oui, c'est ça, on va découvrir 3 grandes salles, en fait, pendant la visite.
Ok. Et elles sont suffisamment grandes pour tenir, quoi, plusieurs dizaines de personnes ?
Ah oui, 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 elles sont immenses. On pense même, bon, on n'a pas vraiment pu le calculer, mais on pense que dans la première salle, la salle de Joly, il y a les chutes du Niagara qui pourraient tenir. Bon, alors, ça reste à vérifier, mais on est vraiment sur de très grandes salles.
Bien sûr. Vous parlez de concrétion. Qu'est-ce que c'est que ça, des concrétions qui intriguent, paraît-il. Qu'est-ce que c'est que des concrétions ?
Bah, tout à l'heure, vous avez parlé de stalagmites,
oui.
De stalactites.
Oui.
Tout ça, on va regrouper tout ça sous le terme de concrétion, en
d'accord.
Fait.
D'accord. Bah, j'ai encore appris un truc, j'ai bien fait.
Notez, oui.
Concrétion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pile d'assiettes, de palmiers, c'est quoi ça ?
Bah, c'est vrai que ça peut donner plein de formes et plein de noms sympas. Donc on va avoir des palmiers, des draperies, on a des
ça
sabres,
ressemble,
des
ça ressemble
d'orgue.
À ça.
Oui, c'est que dans notre imaginaire, ça va ressembler à une forme de palmier ou à une forme de pile d'assiette, de pile de crêpes. C'est pour ça que ces noms-là ont été donnés.
D'accord. Mais comment ça a été creusé, tout ça ? C'est l'eau de la roche qui est le grand maître de toute cette décoration ?
C'est ça. Il y a le CO2 aussi qui va jouer quand même une part importante dans tout ça. En fait, en version un peu accélérée, ça va commencer avec les gouttes d'eau qui sont à la surface, qui sont à l'extérieur et qui vont passer par la végétation quand il pleut. Et dans la végétation, elles vont se charger en dioxyde de carbone, donc le fameux CO2.
Mmh.
Elles sont pleines de CO2, elles vont devenir du coup acides et vraiment corrosives. Donc elles vont ensuite s'infiltrer dans le sol, elles vont rencontrer la roche. Ici, nous, on a du calcaire. Donc elles vont dissoudre, grignoter petit à petit le calcaire, et quand elles arrivent dans la grotte, bah ça c'est grâce à une petite transformation chimique,
oui.
Les gouttes d'eau vont redéposer ce calcaire dans la cavité sous une nouvelle forme que nous on va appeler la calcite.
Ah,
et c'est ce qui va créer les concrétions, donc les stalagmites, les stalactites et toutes les autres formes qu'on peut voir.
Et c'est mieux, hein. C'est beaucoup mieux votre explication, Colline, que quand j'étais en CM2. Hein.
À l'époque, c'est pas mal, hein.
Ouais, non, c'est pas mal, hein. Bien répété, bien joué, très bien, c'est parfait. Il paraît qu'il y a aussi un dispositif scénique, puisqu'on a parlé de spectacle, c'est bien ça, son, lumière.
Oui, 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 complètement, on voit un son et lumière dans la 3e salle, en fait.
Ah oui, d'accord. Bon, et c'est cette histoire de spectacle acrobatique, c'était un projet, ça va aboutir ou pas ?
Oui, oui, oui. Alors, on a déjà eu des représentations en décembre, d'ailleurs,
oui.
Qui sont très bien passées, et les prochaines seront fin avril. Donc en fait, c'est un spectacle qu'il faut vraiment venir voir. Hein. C'est le collectif Les Arts Cordés. Mmh. Donc ce sont des cordistes, des spéléos, des slackliners, des acrobates qui nous proposent un spectacle complètement aérien, acrobatique. Donc ça, c'est vraiment... dans les airs, dans les plafonds.
Oui, mais il faut comprendre et rappeler probablement qu'il y a de la distance au-dessus de vos têtes, là. Donc ça leur permet de se déplacer et de faire des acrobaties. Parce que sinon,
on a une trentaine de mètres hauteur sous plafond.
Et voilà. Et vous parlez de spéléologie, on peut s'initier à ça si on visite la grotte ou pas ?
Oui, complètement. C'est pour tous les âges. Alors c'est quand même pour un public sportif. Et c'est Stéphane qui s'en occupe. Donc Stéphane, c'est notre spéléo, c'est notre gardien de la grotte.
Gardien de la grotte.
Et vraiment, vraiment gardien. Et il propose trois activités pour découvrir le monde souterrain. Donc on va avoir la descente panoramique. Là, c'est une descente dans l'entrée naturelle avec un rappel de 50 mètres, du coup, comme Robert de Joly. On peut aussi faire le vertige souterrain. Là, c'est un parcours plus long, de 3 heures, où on va être dans les plafonds de la grotte. Et il y a une super tyrolienne à la fin. Et on a aussi une solution, on a aussi une expérience souterraine pour les enfants. Donc, ça s'appelle la Spéléomino. C'est à partir de 7 ans. Et là, on est vraiment en vraie tenue de spéléologue et on explore la grotte en ayant accès à des réseaux que les autres visiteurs ne voient pas du tout.
C'est riche. C'est riche parce qu'à la fois, on visite, ça prend quelques heures, je suppose, mais on peut faire des activités quand on est à l'intérieur. Et puis, vous pouvez aussi visiter la cité de la préhistoire pour comprendre comment les hommes et les femmes de l'époque, il y a très longtemps, vivaient et comment ils vivaient et de quoi ils vivaient. On a fait le tour. Hein. Merci beaucoup, Colin. Merci de la visite et de vos explications lumineuses.
Avec plaisir. Merci à vous.
Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Monsieur Clémenté Ruiz, comment fait-on pour aller là-bas ?
Alors, on y va à pied, à cheval, en voiture, comme vous voulez, William. Il vous en coûtera 14,90€ pour un adulte, pour la visite guidée de la grotte, salle après salle, on l'a bien compris. Et pour la visite libre de la cité de la préhistoire aussi, on peut rajouter. Là, c'est 9,90€ pour les enfants. Donc 14,90€ pour les adultes, avec la grotte et la cité de la préhistoire, et 9,90€ pour les enfants.
Il faut rappeler, c'est en Ardèche, hein, le village à côté,
c'est Vendorgnac,
c'est le village
d'Vendorgnac. Ouais.
C'est pas loin.
Et il y a une petite. Oui. Je précise aussi, il y a un truc rigolo. Vraiment, on a vu que c'était très très riche. Pour Pâques, il va y avoir une chasse aux œufs, prévoyez-le, dans les jardins de la grotte. Ce sera le lundi de Pâques. Là, ce sera 5€ par famille. Donc, c'est ludique.
Et si on veut dormir pas trop loin ?
Eh bien, j'ai un hôtel qui s'appelle les Stalagmites à Orgnac-Aven. Donc, c'est le village. Ça coûte 58€, 70€ la chambre double. J'aime bien, on a marqué dans Goudard que c'était un hôtel sans chichi. Mais c'est complètement ça. C'est sympathique.
Est-ce que vous marqueriez l'inverse, si jamais ça existait.
Eh ben, on mettrait pas.
Est-ce que vous mettez parfois hôtel avec chichi ?
Hôtel avec chichi, ça, on peut le faire.
Mais pourquoi c'est toujours négatif ? Allez, ne faites pas de chichi. Faites des chichis.
On met pas les hôtels qu'on n'aime pas, on met que les hôtels qu'on aime. Donc là, c'est l'hôtel Les Stalagmites à Aven d'Orgnac. Et vous pourrez. C'est la grotte Aven d'Orgnac, mais c'est le village Orgnac-Laven. Voilà.
Ah bon, soyons
précis.
Oui, très bien. Stalagmite avec le M, ça veut dire qu'il monte.
Exactement.
Et on a appris des choses. Ça veut dire qu'il tombe.
Voilà.
Europe 1, 15h-16h. Samedi en France. William Lémergie.
C'est moi. Dans cette partie de Samedi en France, il est question de savoir-faire. C'est comme ça que nous avons appelé cette partie. Nous sommes dans le Calvados, pas loin de Deauville, à Beaumont-en-Auge, pas loin de Pont-l'Évêque aussi. Magnifique petit village. Et alors, Beaumont-en-Auge qui a su garder intact toute son architecture. Alors, pourquoi sommes-nous là, M. Gavin Clémenté-Ruiz ? Qu'est-ce que le guide du Routard nous recommande en particulier ?
Eh bien, William, on n'est pas loin, en effet, de Pont-l'Évêque. Vous l'avez dit, un village qui a plus que ma sympathie. sympathie et pour cause, parce qu'il m'a vu naître.
Oh là là, vous avez une plaque là-bas, une statue,
non,
un truc
pas, non, rien, encore, pas, pas encore. Mais je suis fier d'être pontépiscopien.
Pontépiscopien.
Donc, Beaumont-en-Auge, bah, c'est juste à côté, on est à 5-6 km. Et là, on va aller près de l'église, tout simplement. Mm-hmm. C'est un petit village avec des. Vous savez,
elle a été retapée, je crois.
Oui, elle a été retapée, mais j'aime bien le village avec les colombages, la petite rue, l'ambiance de.
Et la vue.
Et la vue.
Quand vous êtes sur le balcon, vous avez toute la vallée en bas.
Ah, vous êtes au milieu de la nature, de la campagne, c'est vraiment très agréable. Et c'est là que se trouve une boutique. Vous passeriez presque devant sans vous en rendre compte. Et puis tout d'un coup, vous arrêtez devant la vitrine. Ça s'appelle Après la pluie. Et c'est la boutique de Dominique Stora et de sa femme, qui sont devenus en quelques années, un peu par hasard aussi, les derniers fabricants de kaléidoscopes.
Vous dites qu'il est devenu. Donc c'est pas un héritage. Son papa était kaléidoscopeur.
Non, à la base, il faisait de la photo.
Ou alors, une vocation, il était peut-être antiquaire, quelque chose comme ça, je sais
c'est
pas.
C'est ça. En fait, en 76, il est arrivé là. Il a ouvert une boutique. Au début, c'était une boutique de livres, d'objets anciens, une sorte de brocante, comme on en trouve beaucoup dans la région. Et puis, progressivement, il raconte que des gens sont venus dans la boutique, lui ont demandé des kaléidoscopes. Mm-hmm. Il s'est rendu compte qu'il y avait une demande, donc déjà. Et puis, surtout, il s'est rendu compte, en cherchant ces fameux kaléidoscopes pour ses clients, que les kaléidoscopes anciens étaient de mauvaise qualité et que les modernes, c'était pire parfois. Donc, il s'est dit, pourquoi je tenterais pas d'en créer moi-même. Et il a regardé comment ça marche.
Bon, j'ai compris. Le plus simple, c'est de lui demander d'autres précisions et où il en est aujourd'hui, parce que c'est pas simple, je suppose, de fabriquer ce genre d'objet.
Non, et puis, avec sa femme, ils se sont pris au jeu. Les demandes se sont faites, on va dire, de plus en plus nombreuses, parce qu'on a vu qu'il arrivait à en faire de très très beaux. Et maintenant, il en vend, mais partout et même dans le monde entier. Ouais, c'est ça qui est chouette.
Il exporte.
Il exporte les kaléidoscopes depuis Beaumont-en-Auge, Dominique Stora.
Dominique, exportateur de kaléidoscopes. Bonjour Dominique, comment ça va ?
Bonjour William, ça va très bien. Bonjour Gavin aussi, et bonjour Maryse, votre assistante très aimable.
Oh oui, vous faites bien.
On embrasse Maryse.
On lui fera la bise. Vous êtes donc fabricant de kaléidoscopes aujourd'hui, mais c'est pas une profession où on se bouscule, hein ?
Non, ce qui est un avantage d'une certaine façon.
Oui.
Mais c'est vrai que ça intrigue. Alors, avant qu'Internet ne réduise l'importance des annuaires par profession, mon activité était un peu dans la situation de la célèbre Zezette et Pouzix. C'est-à-dire que j'avais du mal à rentrer dans les cases. Mais Internet a remédié au problème.
Bon. Mais comment avez-vous fait pour apprendre à fabriquer ces objets qui sont quand même assez, assez précis ? Il y avait un manuel, il y avait un mode d'emploi quelque part ?
Alors oui, l'inventeur du kaléidoscope, un Écossais du 19e siècle qui s'appelait Brewster, a édité un mode d'emploi, pas un mode d'emploi, mais enfin
un traité du
kaléidoscope.
Ah d'accord.
Voilà, mais avant que j'ai connaissance de ce traité, j'en ai démonté, et puis je m'en suis inspiré, et puis j'ai essayé de perfectionner, enfin voilà.
Moi, ce qui me frappe, c'est que, comme Gavin nous raconte l'histoire, c'est comment se fait-il qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par ce genre d'objet ? C'est redevenu à la mode, ou ça l'a toujours été ?
Je pense d'abord que ça l'a toujours été, jusqu'au moment où on a essayé de le tirer trop vers le jouet et où ça a fini par devenir un objet un petit peu sans intérêt. Mais en fait, l'avantage, c'est que c'est un cadeau qui est facile à offrir parce que il y a pas de problème, ni de sexe, ni d'âge, ni de langue pour les étrangers. Et puis on rentre pas dans l'intimité des gens en leur offrant ça. Donc c'est un cadeau facile, mais surtout, ça rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. et ce sont toujours des souvenirs agréables.
Bien sûr, bien sûr.
Donc voilà.
Un kaléidoscope. Alors pour rappeler ça à certains d'entre vous qui nous écoutaient, alors, qu'est-ce que ça contient, puis comment ça fonctionne globalement?
Alors en fait, c'est la combinaison de deux principes qui sont antagonistes. C'est-à-dire que tout le long d'un tube, vous avez des miroirs à des angles très précis, et ça c'est inamovible, c'est froid, ça bouge pas. Et puis à l'extrémité de ces miroirs, vous avez une petite cage en verre dans laquelle il y a des petits éléments colorés et translucides ou transparents. Qui, eux, bougent de façon aléatoire. Alors, autant le côté miroir fixe est assez froid, mais le côté coloré et aléatoire, c'est beaucoup plus chaud. Et c'est, en fait, le mariage de ces deux principes antagonistes qui fait le charme de la chose.
D'accord. Vous en fabriquez beaucoup chaque année ?
Alors oui, j'en ai fabriqué. Ben, ça fait 45 ans d'abord que j'en ai fabriqué.
Ah, seulement.
Ouais, seulement. Et oui, au plus fort dans mon activité. J'en ai fabriqué 15 000 dans l'année. Mais enfin, il faut dire qu'à l'époque, j'ai été aidé. J'avais des collaborateurs, dont un qui restait 25 ans à fabriquer avec moi. Donc,
15 000
Vous avez dit 15 000
Oui, oui, 15 000.
Dans l'année ?
À ce jour, j'en ai fabriqué pratiquement 300 000.
Alors, comme dit, ah oui, le mec a enfin compris. Ah bon, bah c'est votre métier alors. Ah bah ouais.
Oui, oui, j'en ai vécu.
C'est votre principale activité, mais vous, vous continuez dans votre local à vendre d'autres sortes d'objets quand même.
Oui, oui, oui. D'abord, j'ai fabriqué d'autres objets que les kaléidoscopes pour avoir une gamme plus large, ce qu'on appelle des jeux de pré-cinéma, le phénakistiscope, le praxinoscope, enfin ce genre de scope. Et puis à côté de ça, je vends des objets de curiosité. Donc ça va de la machine à vapeur à la photographie ancienne, en passant par des tas de choses de première nécessité.
Je parie que l'endroit où vous êtes, c'est trop petit par rapport à tout ce que vous savez faire et tout ce que vous aimez.
Oui, 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 et c'est aussi la vie de ma femme.
On peut visiter votre atelier ou pas ?
Alors l'atelier non, parce qu'il y a des bouts de verre et des bouts de ferraille qui traînent partout, et donc c'est un petit peu dangereux, donc j'évite, sans compter de vous à moi qu'il est un petit peu en bordel.
J'ai une photo, et puis pour l'avoir visité, mais c'est un joyeux bordel.
Oui, ça c'est vrai. non, mais j'ai en fait tous les différents modèles dans ma boutique, et donc je peux les monter dans de bonnes conditions.
Bien sûr. Quel est le prix moyen d'un kaléidoscope ? Alors bien sûr, je suppose que ça dépend de sa taille et de son volume.
Voilà, alors j'en fabrique de petits miniatures jusqu'au modèle de table. Dans les modèles les moins chers qui sont en papier reliure et en carton, ça va de 20 à 40 euros. Et puis après, il y a tous les prix, parce que j'en fabrique dans des quantités de matière, même des kaléidoscopes qui sont peints à la main, enfin en titane, dans des tas de matière. Donc voilà.
Mais c'est vrai qu'il vaut mieux réserver quand on va dans votre boutique ou
le mieux c'est réserver, non, mais le mieux c'est de laisser un message sur le répondeur, parce qu'en fait je suis plus souvent dans mon atelier et le téléphone y passe mal, et comme ça je rappelle systématiquement les gens et on est sûr de ne pas se rater.
Ah ben vous êtes en Normandie, hein, selon qu'on est devant ou derrière l'arbre, ça passe ou ça passe pas.
Il y a un peu de ça, oui. Fibre n'est pas encore arrivée.
On connaît tout ça. Vous allez le week-end par exemple à la boutique, ou alors c'est souvent l'été. Merci beaucoup, hein, Dominique.
Ben, ça a été un plaisir.
Merci pour vos bonnes idées, et vous présenterez tous nos hommages respectueux à votre femme, madame.
Mais je n'y manquerai pas.
Au revoir, bon après-midi.
Au revoir, vous également. Au revoir.
Alors, Gavitz, il faut rester dans le village, hein, parce qu'on visite la boutique de Dominique, mais pas seulement.
Non, pas seulement. On peut aller manger juste à côté. Il y a le Petit Beaumont. C'est un resto que j'aime beaucoup. C'est rue du Paradis. Déjà, rien que ça, rue du Paradis. Ça ne s'invente pas. C'est 17 euros le petit menu en semaine. Ouais. C'est un peu plus cher le soir et le week-end. C'est le bistrot de campagne avec sa terrasse au beau jour. Ça ne désemplit pas et j'adore cette adresse-là. Une autre adresse que je vous conseille, William, c'est un autre atelier, une autre sortie culturelle dans le village de Beaumont-en-Auge. C'est sur le trottoir d'en face, ou presque, c'est l'atelier d'Antoine Witt. C'est sur la place de l'église, avec ce joli atelier en pierre, avec toutes ces fleurs, ces feuilles qui descendent de recouvertes. C'est vraiment très beau comme endroit, déjà. Et puis, c'est un peintre, Antoine Witt. Il travaille la poudre de roche colorée. C'est bleu, c'est rouge, c'est jaune. Il vous raconte tout avec une gourmandise. Vous montez au dernier étage dans son atelier, il vous montre cette poudre de roche et il vous explique comment il travaille ses peintures, ses créations, c'est un homme généreux, entier, que j'aime beaucoup.
Il y a plein de choses étonnantes dans ce petit village.
C'est tout petit, hein.
Il y a une épicerie qui fait bureau de tabac.
Ah ouais, ça
vous avez plein de petites boutiques, et vous avez peut-être le plus grand chocolatier du monde, Monsieur Bras de Fer.
Ben voilà.
On va passer tout
un été.
Ah non, mais lui, il est génial. Et il s'en va.
C'est vrai.
Parfois, il s'en va, il met une petite affiche, il dit à bientôt. Alors, on ne sait pas où il est, il s'en va 5 ans. Il fait le tour du monde, il travaille ailleurs, il fait des chocolats pour toutes sortes de gens et il revient.
Ça, c'est la magie de Beaumont-en-Auge.
Ces gens formidables qui habitent ce village, comme Dominique, comme Monsieur Bras de Fer et bien d'autres. Une dernière adresse, non ?
Je crois que c'est là, on a fait une bonne petite visite de Beaumont-en-Auge.
Eh bien, vous faites europe1.fr. Nous allons retrouver maintenant au micro de Daniel Moreau, Patrick Hautecoeur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme. C'est un acteur et un auteur de théâtre qui a enchaîné les succès. C'est toujours drôle, avec une troupe extraordinaire. Si je vous dis thé à la menthe ou thé citron ou froufrou les bains, eh ben ça, ce sont des pièces qui ont été jouées plus de 1000 fois. Chacune. Non, franchement, on ne peut pas faire mieux. Là, il vous emmène au pied du Mont-Blanc, parce que chaque semaine, nous demandons une personnalité de nous faire découvrir un petit coin de France. Là, il vous emmène à Chamonix pour vous faire partager les paysages de son enfance. Écoutez-le.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Patrick Hautecoeur.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous parler de vos souvenirs d'enfance à Chamonix pour nous faire prendre un petit peu de hauteur?
Oui, parce que c'est quand même... une région très montagneuse, c'est là où il y a le Mont Blanc, et c'est la montagne la plus haute de d'Europe, je crois. Hein. Et c'est un endroit où on est dans la vallée. C'est magnifique. Moi, j'étais au Pèlerin. C'est un tout petit village qui est juste avant Chamonix. Et de là, on peut accéder à l'Aiguille du Midi. On peut accéder à la mer de glace. Enfin, c'est vraiment une région magnifique. Et aussi bien en hiver qu'en été, d'ailleurs.
Ah oui, ça c'est important de le dire. Donc vous y passiez vos vacances. Alors c'est vrai qu'on pense au ski, mais quels sont les lieux à ne pas rater, même dans la ville de Chamonix? J'imagine que c'est une très belle ville.
Alors c'est une très belle ville qui est devenue de plus en plus une ville touristique, parce que ça s'est quand même agrandi. Autour, vous avez aussi également des petits villages qui sont restés un petit peu dans leur jus. Et puis vous avez plein de départs pour des balades magnifiques. Vous n'êtes pas obligé de prendre des téléphériques ou même des remontantes pour y aller. Vous pouvez partir comme ça directement de Chamonix.
Alors pour un petit garçon, puisque vous y avez passé des vacances pendant une dizaine d'années, il y a des coins comme ça un petit peu privilégiés. Vous alliez vous perdre, vous balader. Est-ce qu'il y a des endroits que vous pouvez nous conseiller, un petit peu moins connus, disons?
Dans le petit village du Tour, qui est un tout petit peu plus loin, il y a aussi des endroits où on peut aller dans des petits refuges, ne serait-ce que pour prendre une tarte aux myrtilles, vous voyez, et qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Hein. On n'est pas obligé d'être un grand alpiniste. Hein.
Oui, c'est ça, c'est important de le dire. On peut faire des randonnées et c'est à la portée de tous.
Oui, bien sûr. Oui.
Alors, ce qui est à la portée de tous, c'est d'aller au Théâtre Fontaine hein, pour vous applaudir dans Berlin, oui. Une pièce que vous avez coécrite avec Gérald Silberas. Vous pouvez nous faire le pitch, parce qu'on dit que cette pièce est totalement folle, totalement déjantée, comme souvent avec vous, mais...
Oui, un petit peu, c'est-à-dire que c'est surtout le sujet qui est un peu déjanté. On se retrouve Berlin, on est donc c'est Berlin-Est, Berlin-Ouest, et voilà, et c'est l'histoire d'un couple qui décide de passer le mur en passant, ils habitent Berlin-Est, et ils décident de passer à Berlin-Ouest, et ils décident de passer par des caves, et pour accéder à ces caves qui étaient murées à l'époque, il trouve un passage secret dans un appartement, et donc cet appartement est en fait un nid d'espion. Mais ça, ils ne le savent pas. Ouais. Donc ça les emmène très loin dans l'aventure, et on se retrouve même à la Stasi, qui était la police de Berlin-Est.
Très bien. Alors, comme vos autres succès, Thé à la menthe ou Thé citron, Froufrou les bains, vous êtes parti pour plus de 500 représentations. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je souhaite à tous les auditeurs de pouvoir aller vous applaudir. Merci Patrick Hautecoeur.
Merci à vous.
Merci beaucoup Patrick. Je précise, c'est déjanté, mais c'est extrêmement original. Vous ne trouverez pas ce genre de scénario dans votre pièce de théâtre, ce qui fait la qualité. Et franchement, Thé à la menthe, Thé citron ou les autres, vous asseyez, ils rentrent sur scène. En l'espace de 3-4 répliques, vous commencez à sourire, puis après c'est l'éclat de rire, et ça ne s'arrête pas pendant une heure et demie, quoi.
Pas mal.
Alors, allez voir ça, monsieur Gavitz et madame,
je
monsieur,
note.
Qui nous écoutez. Alors, c'est une comédie, donc, c'est au Théâtre Fontaine. Si vous passez par Paris à l'occasion de vacances, plus exactement.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
On vous propose maintenant, avec Gavins, Clément Terruis, du Guide du Routard, il l'a sous le bras, c'est comme ça qu'il se fait remarquer, ce garçon. Remarquez, pour cette émission, c'est parfois utile. Hein. On a des remises sur les tickets d'entrée. Non,
vous avez
pas.
Des réductions si vous venez dans certains endroits, ouais, en présentant votre guide à chaque fois.
Ah, et intéressant. Ouais. Là, on vous propose de découvrir le marais de l'Audomarois. L'Audomarois, c'est dans le nord. Et on fait ça à bord d'une embarcation particulière. Et alors, ils sont très fiers de ça et ils ont raison. Le lieu, c'est un modèle d'équilibre écologique. Ça mérite une explication, ça.
C'est moins que l'on puisse dire, William. Parce que d'abord, il y a l'embarcation, vous l'avez dit, ça s'appelle un bacove. Alors, c'est la barque traditionnelle à fond plat qui est utilisée dans ce marais. Alors, elle est vraiment unique en son genre. Hein. On ne la trouve que là, dans ce marais de l'Audomarois, comme vous l'avez dit. Ouais. Elle est construite en chêne. Elle peut transporter jusqu'à 3,5 tonnes de marchandises. Imaginez, c'est quand même...
En temps ordinaire, c'était fait pour ça.
Ouais, c'était ça. C'était pour transformer des légumes, des fruits et des légumes, des légumes. Vous êtes dans l'Audomarois, je l'ai dit. Ce marais, il fait 3800 hectares. Oula. Et on est, si vous voulez une petite idée, entre Calais et Béthune. Et c'est pas loin de la célèbre cristallerie d'Arc.
Mais qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, ce marais? D'abord, je ne savais pas qu'il y en avait dans cette région-là. Qu'est-ce qu'il a de si étonnant pour qu'on le visite à ce point, quoi? Parce qu'on se balade longtemps.
Hein. Ouais, c'est ça. C'est une belle balade bucolique. On est dans la section plein air de notre émission. C'est fait pour ça. C'est un ancien golfe, en fait, ce marais, qui est gagné sur la mer et qui a d'abord été asséché par les moines vers l'an 800. On n'était pas là pour vérifier, mais vers l'an 800, les moines l'ont asséché. Des canaux ont ensuite été construits pour bien y circuler. Là, c'était vers le 15e siècle. Et puis, les canaux ont pris des noms flamands. On appelait ça des wateringues. Des wateringues. Ou alors, si vous voulez, en traduction...
Chemins d'eau.
Exactement.
Ils servent à quoi, ces canaux?
Et ben en fait, ils desservent encore des parcelles cultivées. C'était des marais qui étaient cultivés au 18e et au 19e siècle, qui servaient au maraîchage. Et c'était surtout le chou-fleur qui était cultivé là. Et c'est une culture qui est toujours en place aujourd'hui.
Bon, ça mérite des informations supplémentaires sur les étapes du parcours. Nous avons en ligne Julien Duquesne, qui est de l'Office de tourisme de Saint-Omer et de la Maison du Marais, puisque ça s'appelle comme ça. Bonjour Julien.
Bonjour à vous deux.
Bonjour. Alors, c'est intéressant, cette zone de marais et maraîchage aussi, en plein cœur des terres. L'UNESCO vous a classé comme réserve de la biosphère. On a un peu expliqué ça, mais vous avez peut-être des choses complémentaires à nous dire à ce propos.
Oui, ben on est sur une zone du parc naturel, régional chez nous. Et ce marais qui est classé, c'est parce qu'il a un intérêt exceptionnel, déjà. Et puis parce qu'il requiert vraiment l'attention de l'homme. Il faut savoir que sur ce marais, on compte une faune et une flore très remarquables. Il y a plus de 200 espèces d'oiseaux. Par exemple, le héron, il y a le cormoran noir, il y a le martin pêcheur.
Et là, ils vivent en toute liberté. Là. C'est-à-dire que quand on se déplace... Moi, j'ai une photo, là. On est dans le bacove, ou d'où la bacove, comment dit-on?
Le bacove.
Ils sont autour de nous, on les voit. Mais c'est vous qui les nourrissez ou ils se débrouillent?
Non, ils se débrouillent. Hein, ils se débrouillent dans une réserve naturelle. Sinon, il y aurait beaucoup de travail chaque jour.
Ah oui, je m'en doute. Oui. Alors, donc, la faune, la flore aussi.
On a 50% par exemple de la flore aquatique au niveau régional qu'on retrouve dans le marais. On a 14 espèces par exemple de chauves-souris, on a près de 30 espèces de poissons. Il y a beaucoup de pêcheurs dans le marais, on retrouve la carpe, on retrouve le brochet, on retrouve l'anguille. Ah. C'est vrai que c'est un lieu exceptionnel pour observer, on a notamment les étangs du Romelard.
Eh oui, mais on a le droit de pêcher.
Oui, on a le droit de pêcher sur notre territoire.
Ah d'accord, mais c'est très grand d'après ce que m'a dit Gavis là.
Oui, on est sur 3800 hectares. Alors, quand on dit 3800 hectares, on n'a pas d'échelle. Imaginez-vous, par exemple, la taille de la ville de Lille. Hein. C'est ça, 3800 hectares. et puis, des balades. Il y a plus de 700 voies d'eau, 700 kilomètres de voies d'eau, pas toutes praticables. Mais vous imaginez, c'est un Paris-Toulouse. Hein.
Ah oui, d'accord. Donc, on est à bord de l'embarcation et on serpente comme ça à travers le marais.
Voilà, c'est un labyrinthe d'eau. Hein. Il y a trois types de marais. Hein. Il y a le marais maraîcher qu'on cultive, il y a le marais de nature, hein, celui qu'on a évoqué tout à l'heure, puis il y a le marais habité, puisqu'il y a toujours des gens qui habitent dans le marais. Il y a par exemple un facteur en bateau qui fait sa tournée en barque chaque matin.
Hein. D'accord, mais il amène du courrier à qui? Au héron?
Au héron et puis aux habitants qui vivent sur des petites îles, finalement.
Il y a des gens qui vivent dans le marais, alors.
Oui, tout à fait.
D'accord. On a parlé aussi de fleurs, mais on cultive d'autres choses comme ça dans le marais qui peuvent être vendues.
Oui, on cultive beaucoup de choses qui se mangent. Hein. On a parlé des terres maraîchères. Il y a encore beaucoup de familles qui sont présentes sur le territoire. Il y a une cinquantaine de variétés de légumes. Alors, il y a le chou-fleur chez nous, le chou-fleur d'été. On est capital, hein, Saint-Omer, du chou-fleur d'été. Il y a une confrérie. Et puis, on retrouve les carottes de Tilk, qui sont immenses. Hein. Je pense que c'est les seules carottes que mange Bugs Bunny. Et puis, beaucoup d'autres choses, comme les endives en hiver.
Ah bon, on a ça sur sa carte de visite. Capital du chou-fleur d'été.
Ah, ça, tout
c'est
à fait, monsieur.
Ça, c'est la classe, ça. Membre de l'association des chou-fleurs d'été. Oh, très bien, ça. Quand on fait une visite comme ça, je suppose qu'on... ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut en faire une visite d'une heure, mais si on veut faire plus, étant donné que le nombre d'hectares, on peut le faire, non ?
Ouais, bien sûr. Alors, si on veut avoir des informations sur le marais, si on veut rencontrer la légende de la sorcière Marie Grouette qui attrape les enfants qui s'approchent trop près de l'eau, si on veut partir à la recherche comme ça aussi des pêcheurs, voir le héron faire un vol au-dessus de nous, ça, il y a des balades commentées. Mmh. Et puis sur notre territoire, on peut aussi louer des embarcations un peu plus petites, un peu traditionnelles, puisque comme l'a dit Gavine, on est sur des fabricants ici, il en reste un vraiment dans notre région, un faiseur de bateaux qui est situé à Saint-Omer.
D'accord. Et est-ce que vous avez des guides qui éventuellement peuvent monter à bord du bateau et nous faire un commentaire explicatif, etc.
Oui, bien sûr. Bah, en back-off, de toute façon, je ne vais pas dire qu'il faut une habilitation pour piloter, mais c'est assez compliqué hein, vu la grandeur du back-off. Donc, il y a toujours de toute façon un guide qui va venir vous chuchoter à l'oreille, hein, puisque nous sommes en moteur électrique et c'est la nature qui s'exprime. Donc, sur ce type d'embarcation, il y a toujours un guide avec vous.
Ah bon, je comprends pourquoi on vous a donné un label, parce que pour pas déranger.
On chuchote.
Voilà, on chuchote.
moteur électrique, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi j'ai une photo où on voit un tout petit moteur à l'arrière, je me suis dit tiens, ça doit faire pout, ça doit peut-être déranger. Eh ben non, pas du tout, ça fait pas de bruit, c'est électrique. Merci beaucoup, bravo, bonne idée. Je vous souhaite un bon après-midi, merci encore, au revoir.
Merci,
au revoir.
Alors combien ça coûte cette visite, monsieur Clément-Thérémy ?
Eh bien, pour aller faire la visite avec l'éco-interprète, comme on dit.
Ça s'appelle un éco-interprète.
Un éco-interprète. Alors pas l'éco-écologie.
Écologie,
ça coûte 11 euros. Pour un adulte, c'est
ça
ouvert. Ouais, ça va. C'est ouvert tous les jours à partir d'avril et c'est 14,50 € si vous voulez ajouter la visite de la maison du marais qui est juste à côté quand vous sortirez de la. Comme ça, vous saurez tout sur la faune, la flore, c'est assez intéressant. Et à noter que le dernier dimanche de juillet, alors on a un petit peu le temps, mais est organisée une grande fête symbolique des maraîchers avec un cortège de back-off, rien que ça, avec les familles qui sont habillées ou les bénévoles qui sont habillés en tenue traditionnelle dans les back-off.
Il y a du monde là ?
Environ 30 000 personnes.
Comment ça, 30 000 personnes
qui se déplacent
sur le...
Exactement, c'est le dernier dimanche de juillet. C'est sympa.
Ah ouais, c'est bien ça, avec pique-nique et compagnie.
Et tout ce qu'il faut.
Très bien. Si on veut dormir dans le coin, on va où ?
Alors, j'ai une chambre d'hôte idéale. Ça s'appelle les chambres d'hôte du Marais, tout simplement. C'est à Tilk. Alors, c'est pas très très loin de Saint-Omer. C'est une chambre qui coûtera environ 70 euros pour deux personnes. On sera accueillis par Edwige et David dans un ancien corps de ferme. Et puis, alors, ce que j'aime bien, c'est cette brique rouge typique Nord. Là. J'aime beaucoup ça. On est à deux pas de la ville. On est en pleine nature pourtant. C'est ça qui est assez agréable. Il y a des chambres qui ont les noms des fleurs du marais. Alors, il y a l'iris, le nénuphar, la marguerite. Ouais, vous verrez, vous choisirez. Tout ça avec un copieux petit-déj testé et approuvé. Ça s'appelle les chambres d'hôtes du marais. C'est à Tilk.
Alors, si vous voulez en savoir plus, encore plus, europe1.fr, évidemment. Alors, un récapitulatif désormais, comme à chaque fois dans cette émission, des lieux que nous avons visités aujourd'hui. Alors, nous avons commencé par dormir où ça ?
Alors, on a commencé à dormir dans un camping très insolite. C'était à Saint-Michel, chef.
C'est le nom, hein.
En Loire-Atlantique, on a dormi dans un avion, un hélicoptère, un vieux tramway, que sais-je, dans ce camping de Saint-Michel, chef.
Mmh. Ensuite, en Ardèche.
Nous sommes allés à 120 mètres sous terre pour découvrir cette curiosité naturelle qui s'appelle l'Avène d'Orgnac, avec des stalagmites et des stalactites géantes. Maintenant, c'est comment...
Mites, c'est ceux qui montent, et tites, c'est ceux qui tombent.
Tombent, exactement. Parfois, vous avez retenu la leçon, élève.
J'avais pris des notes.
Vous avez pris des notes, c'est bien. À Beaumont-en-Auge, dans le Calvados, on a appris à faire des kaléidoscope avec l'un des derniers, si ce n'est le dernier fabricant.
Oui. Alors,
de
ça, c'est exceptionnel ce que vous nous avez fait visiter, mais ce village-là est l'un des plus beaux de France.
C'était Dominique Stora, à Beaumont-en-Auge. Et enfin, nous avons vogué sur les canaux du marais de l'Audomarois dans le Pas-de-Calais. Et ça, c'était très beau aussi, à bord d'un back-off.
Pour finir, alors, un film ou une expo, une BD ou ce que vous voulez, mais qui concerne la France et qui a retenu votre attention dans l'actualité de la semaine.
Exactement. Alors là, j'ai retenu un livre cette semaine. C'est un roman même. C'est le roman du d'une vie, c'est le roman de Rosa Bonheur.
Ah ouais.
Rosa Bonheur, c'était une femme hors du commun.
On l'a un peu oublié.
Ouais, et justement, on la réhabilite. Elle est née au 19e siècle. C'est une artiste, peintre, une spécialiste de l'art animalier. On peut voir quelques-uns de ses très beaux tableaux représentant surtout des vaches. J'adore ces tableaux de vaches. Il y en a au musée d'Orsay à Paris. Il y en a aussi au Met, si vous allez à New York.
Eh ouais, mais il y a des vaches, parce qu'il n'y a pas que Jeanne Boudin qui a fait des vaches. Hein.
Il faut savoir
qu'il y a aussi Rosa Bonheur.
Et c'est la première femme à avoir été promue officier de la Légion d'honneur en 1894. Imaginez. Oh, elle a voyagé partout en France, en Europe, en Écosse, jusqu'à la French Riviera. Et c'est une femme libre. C'est ce portrait qu'on va découvrir dans ce roman. Un portrait de femme indépendante qui va. Son atelier se trouve à Thomery, c'est en Seine-et-Marne, près de Paris, et qui a été transformé en musée Rosa Bonheur. Et tout ça a été, j'ai envie de dire, rassemblé, raconté avec brio, panache par Patricia Bougenot Dechin. Et son livre s'intitule J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau. C'est une citation de Rosa Bonheur. J'adore. J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau.
C'était une petite dame.
C'était une petite dame, mais alors avec un sacré tempérament.
Oui.
Et le livre a été publié chez Albin Michel. Il vient juste de sortir. C'est l'occasion. C'est passionnant. Profitez-en. C'est l'histoire de Rosa Bonheur.
Samedi en France est maintenant terminé. Merci à Maryse Jacquet qu'on embrasse puisque tout le monde souhaite l'embrasser. Christophe Pirot qu'on va embrasser aussi. Daniel Moreau également. Morgane Péquilé. Et vous, mon cher Gavis, pontépiscopien honorable. Nous vous retrouverons avec plaisir samedi prochain, Madame Monsieur, pour découvrir, écoutez bien, 4 nouveaux sites parce que c'est comme ça chaque samedi sur Europe 1 dans 4 régions de France. À samedi prochain, 15h. Bon après-midi.